Terminé sur Origène. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, bon, l'origénisme va être combattu aussi. Il y a donc Épiphane de Salamine en particulier, un chasseur d'hérésie du 4e siècle, qui va lui tomber dessus. Et il y aura toute. Épiphane de Salamine. Salamine, c'est en Grèce. Oui. Oui, il me semble bien. Oui. Et donc, il va y avoir toute une querelle qui va se dérouler surtout. Donc vous savez qu'il avait eu du mal à se faire bien voir par son évêque, puisqu'il avait été obligé de partir, de s'exiler en Syrie. Et puis là, il va avoir plein d'amis, des évêques, etc. Et puis des disciples enthousiastes, qui vont parfois être trop enthousiastes, c'est-à-dire là où Origène avait encore laissé des points d'interrogation, ils vont mettre, si vous voulez, des points d'exclamation. Alors, donc, ça va parfois aboutir à des malentendus. Et par exemple, au VIe siècle, la théologie d'Origène va être très attaquée. Et puis, c'est comme ça qu'on perdra tous les deux. Ces ouvrages seront perdus et n'existeront plus que dans quelques traductions latines qui avaient été faites, notamment par Ruffin, par Jérôme, qui à un moment était très originien, avant de ne plus l'être. Donc voilà. Et on peut dire qu'il va inspirer les autres pères de l'Église qui vont avoir à se situer par rapport à lui, et à la lumière aussi des progrès de la définition de la foi à travers les conciles, qui vont du coup se montrer que certaines hypothèses d'Origène sont en fait des hypothèses qui ne sont pas vérifiées par le dogme. Donc voilà. Alors, on va s'arrêter avec. Du coup, j'arrive à la fin de ce chapitre. Et on va passer. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais peut-être au début du chapitre suivant. On aura pas mal de saint Augustin. Alors justement, le chapitre 2, je l'ai intitulé « Les pères dans l'Empire devenu chrétien ». Je vais vous donner juste l'introduction. Est-ce que certains n'ont pas le plan ? Tout le monde là ? Alors, donc vous voyez, on était avec Origène au milieu du 3e siècle. Bon, on pourrait citer encore d'autres auteurs, mais on va arriver à cette modification vraiment inespérée qui est ce qu'on a appelé le tournant constantinien en 313, qui va ouvrir une voie nouvelle pour l'Église. Elle était persécutée de la manière encore la plus violente qui soit par Dioclétien en 305, puis Dioclétien finit par se rendre compte que ça sert à rien, mais dans la partie orientale de l'Empire, si je me trompe, c'est Maximien qui lui va continuer encore de manière plus cruelle la persécution, alors que finalement c'est là où il y a le plus de chrétiens d'ailleurs. Et puis soudain, voilà, l'Église va être soudain tolérée, et ensuite en l'espace d'un demi-siècle encouragée au point de devenir le fondement même de la société.
Donc vraiment bien Constantin qui a été à l'origine de cette reconnaissance.
C'est clairement Constantin, oui.
Et ça.
Et pour des raisons, je pense que c'est plutôt de la sagesse politique.
Aussi.
Oui. Et et puis qui, comme tous les gens de l'Antiquité, était mêlé de superstition et de religiosité, et qui l'a amené à changer de son fusil d'épaule. Hein.
C'est pas sous Constantin que ça devient religion d'État 70 ans plus tard.
Alors, c'est après, c'est sous Théodose. Voilà. Et de fait, en 396, l'Église devient même vraiment le fondement de l'État. Donc, elle passe de la situation de toléré à la situation de fondement. Donc, et vous voyez, en l'espace de 80 ans, quoi.
S'il n'est pas devenu chrétien à la suite d'une victoire.
Oui, c'est l'histoire de la. On va y revenir. Donc, du coup, l'Église va aussi accueillir de plus en plus des personnes cultivées. Et les auteurs de la littérature patristique sont désormais des évêques cultivés, dont les écrits répondent justement aux attentes théologiques, pastorales, spirituelles de leur temps. Et on peut dire que les 4e et 5e siècles vont constituer, on pourrait dire, l'apogée de la patristique. C'est l'époque où les deux parties de l'Empire forment encore un ensemble culturel et où les frontières sont suffisamment défendues pour qu'il y ait cette paix, en quelque sorte, qui permet justement de se livrer à des travaux intellectuels, spirituels, hein, parce que finalement, la pensée théologique supposera une certaine tranquillité aussi civile. Alors, cette littérature aborde l'écriture comme fondement de la foi, donc on aura toujours des commentaires des livres bibliques, et l'élucidation philosophique de la foi. Donc, vous voyez, l'écriture comme fondement de la foi, on va commenter l'écriture, et ensuite on va élucider philosophiquement la foi. C'est-à-dire, on va essayer de lui donner l'exprimer aussi à travers des catégories du langage humain. S'y ajoute l'élaboration du dogme, qui est en devenir, notamment donc autour des discussions conciliaires, qui sont souvent liées à des réfutations d'hérésie. Et puis, on traite aussi de l'historiographie, par exemple avec Eusèbe de Césarée. Donc on va se pencher sur l'histoire, sur la théologie des sacrements et de la pratique liturgique. Vous avez un exemple avec tous les discours catéchétiques et toutes ces homélies de ce qu'on appelle mystagogiques. On aura aussi une littérature qui traitera de vie spirituelle et monastique, comment ça se mettre en place. Et puis, la morale pratique. Donc, souvenez-vous des écrits de Tertullien. On aura encore des écrits sur la manière dont les femmes se coiffent les cheveux, sur les vêtements, sur les spectacles, sur les devoirs, etc. Et évidemment, la prédication qui va reprendre tous ces thèmes et va les répandre dans le peuple chrétien. Alors, j'ai prévu de traiter ça en trois sections. Une première qui est théologique, la crise arienne, qui va nous valoir des grands conciles et des grandes luttes. Ensuite, l'âge d'or de la patristique. Et enfin, saint Augustin, d'une certaine manière, qui les résume un peu tous. Donc, la théologie, la crise arienne, on la verra dans ces deux phases. L'âge d'or de la patristique grecque est latine, puisqu'elle commence à se diviser, enfin disons à se... distinguer, voilà, plutôt clairement. Et puis, puis saint Augustin, parce que c'est finalement celui qui a le plus marqué notre monde latin. Voilà. Alors, bah, écoutez, on abordera tout ça la fois d'après.
Donc les pères grecs, là, eux, ils écrivent en grec et les pères latins.